Aujourd'hui, il y a une petite contrainte liturgique. C'est le pape, là, il y a 2 ans à peu près, je crois, qui a demandé à ce que ce dimanche-ci, donc le 3e du temps ordinaire, soit consacré à la parole de Dieu, au thème de la parole de Dieu. Donc parler de la Bible et de celui qui l'a inspiré. Mais en même temps, bien sûr, des textes de ce jour. D'abord, le Nouveau Testament. Nouveau Testament, nouvelle alliance. La Bible, elle, plus que l'Ancien Testament, le Nouveau est l'accomplissement de l'Ancien. Tout ce que l'Ancien annonçait, mais ne réalisait pas, le Nouveau Testament l'a réalisé. C'est pourquoi, bien évidemment, les textes du Nouveau Testament sont bien plus importants et fondateurs pour notre foi chrétienne que ne le sont ceux de l'Ancien Testament. Pourtant, il y a une continuité entre les deux, et c'est à titre historique pour bien comprendre le déploiement du mystère de Dieu dans le temps, dans l'histoire humaine, et bien que nous les recevons en tant que révélation divine, eux aussi, mais pas sur le même pied d'égalité, bien sûr. La Bible, qu'est-ce qu'elle nous communique? Elle nous communique la présence de Dieu. C'est un don inestimable. Mais c'est le Nouveau Testament qui nous la communique véritablement, pleinement. L'Ancien Testament montre la présence de Dieu de loin. Le Nouveau Testament nous communique cette présence de Dieu qui n'est rien d'autre que le Christ, qui est le Verbe de Dieu, en d'autres termes, la parole de Dieu. Donc, il est la Bible vivante, Jésus. Et il a pris chair pour nous enseigner, pour nous communiquer les secrets du Père, pas tous, mais au moins quelques-uns. Ce que la Bible encore, et le Nouveau Testament toujours, nous communique en priorité aussi, c'est ce texte est une parole de vie éternelle. Donc, la présence de Dieu, mais aussi la communication de la vie véritable, la vie de l'âme, pas celle du corps. Pour le corps, on est prêt, trop d'hommes sont prêts à sacrifier leurs âmes. Et c'est l'inverse qu'il faut faire, si vraiment il fallait choisir. Il vaudrait mieux, et c'est l'enseignement classique du christianisme, il vaudrait mieux, au pire des cas, sacrifier son corps, arracher son œil, disait Jésus, ou couper sa main, plutôt que d'entrer dans la guéhenne de feu. Il y a un ordre dans les choses. Cette nourriture de vie que la parole de Dieu nous donne, c'est pas pour le monde présent. Il y a des retombées cependant, parce que évidemment, quand on se comporte avec justice, avec bienveillance, par définition, eh bien, les hommes de bonne volonté reconnaissent et applaudissent, eh bien, ces vertus. Bien sûr, il y a les autres, ça, c'est les adversaires comme toujours. Isaïe parlait de la grande lumière. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Isaïe indique de loin le Verbe de Dieu, Jésus-Christ. Mais il parle aussi, on peut l'appliquer en tout cas, à l'Écriture elle-même. Parce que Jésus ne se contente pas de venir il y a 2000 ans. Il vient, là, à chaque fois que nous ouvrons le livre. Bible, biblos, ça veut dire livre en grec. Le livre par excellence, le livre qui contient tous les autres. Et cette grande lumière, eh bien, nous l'avons à portée de main, chacun d'entre nous. Il ne tient qu'à nous de l'ouvrir pour ne plus habiter un monde de ténèbres. Le ténèbre, c'est un monde qui n'est pas éclairé par la parole de Dieu et ses valeurs. Ce monde-là, eh bien, il gît dans les ténèbres. Ténèbres du relativisme, ténèbres de la douleur existentielle, du « no future », etc., etc. Pas de vie éternelle, rien. Ou en tout cas incertain. La manifestation de la vérité, de cette manifestation, dépend vraiment le destin de l'homme. Et cette vérité, cette lumière est vérité apportée au monde. Jésus dit à Pilate, « Je ne suis venu que pour une chose, rendre témoignage à la vérité. » C'était sa mission, dit-il à un païen, pour que le païen puisse comprendre de quoi il parle. La vérité. Et c'est ce que la parole de Dieu nous communique. Une vérité sur notre destin, sur notre nature humaine, sur notre cheminement. Et cette vérité-là, elle est irremplaçable parce que nous ne pouvons pas l'inventer, elle est révélée, elle nous est donnée d'en haut. Ce n'est pas une vérité inscrite dans le monde qu'un scientifique pourrait décrypter en regardant les herbes et en regardant les animaux, ou que sais-je. Ou les astres. Non. Cette vérité, c'est le Verbe de Dieu qui vient d'en haut et que l'homme était incapable de rejoindre. Voilà ce que la Bible nous donne. C'est un trésor merveilleux. L'Ancien Testament, c'est une annonce de la vérité, mais une annonce inaccomplie. L'Ancien Testament se contente de montrer du doigt un avenir qu'il ne verra jamais. C'est toutes les limites de l'Ancien Testament. La révélation d'un Dieu, du vrai Dieu, du Dieu unique, mais un Dieu inatteignable, qu'on ne peut pas rejoindre, avec lequel on ne peut pas communiquer, sauf par des médiateurs. Les prophètes, selon les fêtes liturgiques, les prêtres, etc. Jésus, dans l'Évangile, passe de Nazareth à Capharnaüm. Il se rend à Capharnaüm. En fait, le texte qui précède, c'est les tentations au désert. Donc, il reçoit le baptême de Jean-Baptiste, il va 40 jours au désert pour y être tenté, et là, véritablement, il est consacré, il se consacre à Dieu dans sa volonté d'homme, et il a choisi son camp, pourrait-on dire, et là, il déménage, il quitte Nazareth. Nazareth, c'était le lieu de sa vie cachée, c'était le lieu de son enfance, de sa jeunesse avec la Vierge Marie et Joseph. Il quitte ce monde quotidien plein de beauté, mais en même temps, ce n'était pas sa mission. Sa mission, elle commence maintenant. Et il ne va pas très loin. Il va à Capharnaüm, qui est autour du même lac, qui n'est pas très loin de Nazareth non plus. Mais dans un autre petit état, une autre tribu, c'est Nephtali et Zabulon, c'est la Galilée qui commence. Il y va afin d'accomplir les Écritures, nous dit saint Matthieu. Et ça, c'est important. Il n'existe pas de rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a une continuité, mais il y a aussi une progression, et ô combien grande. La progression, c'est de découvrir l'éternité, c'est de découvrir que cette éternité est à notre portée, c'est de recevoir le pardon des péchés, c'est de pouvoir opposer aux forces ténébreuses, diaboliques, de véritables remèdes. Voilà ce que c'est, voilà ce que ce royaume qui est tout proche, dit Jésus, le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous. C'est une vie nouvelle à laquelle il nous invite. On devrait toujours être émerveillé de ce cadeau-là. Jésus est venu et il continue de venir pour nous l'apporter, pour nous la communiquer. Ensuite, il y a le récit de l'appel des premiers disciples. Eh bien, quand on regarde l'appel des hommes au long des âges, notre appel personnel, eh bien, là aussi, c'est dans la continuité de cet appel des premiers disciples à entrer en état d'amitié avec Dieu. Nous sommes nous aussi appelés à entrer en état d'amitié avec Dieu. À chaque Eucharistie, Jésus nous appelle et nous devrions répondre avec la même promptitude que l'ont fait les quatre premiers disciples, laissant tout, et ils le suivirent. Laissant tout, ils allèrent prier. Laissant tout, ils allèrent à la messe. Laissant tout, ils prirent leur Bible et lurent et méditèrent un peu l'Écriture. Laissant un peu les pensées ordinaires. Ils contemplèrent des grandes idées de Dieu sur la dignité humaine et sur le monde. Et ainsi, la volonté de Dieu devient notre propre volonté. J'achèverai en disant que l'Église a pour vocation d'être la gardienne de l'Écriture. Et c'est quelque chose de vraiment très grand, ça. Elle est la gardienne de la Bible. Et au long des âges, l'Église approfondit et en même temps discerne toutes les interprétations qui ont lieu à l'occasion de tous les passages de l'Écriture. Elle les met à l'épreuve et elle conserve bien les meilleurs, tous ceux qui parlent en vérité. En même temps, elle reste toujours ouverte parce qu'elle sait que la révélation, même si on ne peut pas la transformer, elle est fondée sur l'infini. Et donc on peut toujours infiniment la scruter et la discerner. Cette belle vocation, nous l'avons nous aussi. Garder la parole de Dieu dans notre propre existence, dans notre cœur, et la communiquer. C'est beau de communiquer aux enfants, de raconter la Bible aux enfants, mais pour ce faire, il faut l'avoir lu et méditer un petit peu soi-même, bien évidemment. Mais invitons nos enfants à mieux connaître la Bible et toutes les histoires de la Bible pour qu'ils puissent entrer plus loin dans son grand mystère, celui de la présence de Dieu, de la communication de la vie éternelle, du don de la vérité qui éclaire les ténèbres d'un monde toujours plus obscur.